Notre Bible, on va continuer notre étude dans Jacques. On va lire juste deux versets aujourd'hui, mais pas les moindres. Versets 11 et 12. Donc Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. C'est d'abord tout le monde. Jacques chapitre 4, versets 11 et 12. Il est dit, ne parlez point mal les uns des autres, frères et sœurs, on va rajouter. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? On va parler de la calomnie et des jugements un peu ce matin et s'arrêter dessus pour voir ce que Jacques veut en dire tout simplement. Et depuis le début de cette épître de Jacques, on a vu que les chrétiens étaient dans la diaspora, dans l'épreuve, étaient tentés par la vengeance, par la colère, par un tas de choses, qu'on a tendance à minimiser aussi des péchés comme le favoritisme, qu'avec notre langue on peut faire beaucoup de choses, hein, mal évidemment, qu'on manque bien souvent de sagesse. On a vu la dernière fois que le Seigneur ne veut pas qu'on soit mondain ou charnel, qu'on ne vive pas comme le monde. Et maintenant, il s'attaque à quelque chose que la langue fait, évidemment, la médisance, les jugements, les critiques, toutes ces choses qui font finalement du mal. Mais ça, les chrétiens ne le font pas, heureusement. Pourtant, il s'adresse aux chrétiens, là. Donc ne calomnions pas, c'est ce qu'il veut nous apprendre dans ces deux versets. Je cherchais un peu la définition de la calomnie, à droite et à gauche. Hein. Jacques dit d'abord, ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Je pense qu'il le dit avec son cœur. Arrêtez de parler mal les uns des autres. Parler mal, dans le grec, c'est parler contre, c'est diffamer, c'est calomnier quelqu'un, c'est l'incriminer. C'est fort, c'est l'incriminer, l'accuser de quelque chose. Alors il ne s'agit pas seulement, quand on parle mal, en s'insultant, parce que là, on sait très bien qu'on a mal parlé, hein, parce qu'on peut très bien calomnier en poésie. Moi, je peux vous le faire, en tout cas. Très joliment dit, et ça peut faire très mal. Donc c'est pas seulement l'insulte dont il parle là. On peut parler très simplement, normalement, et faire beaucoup de dégâts derrière. Ce sont les paroles, justement, qui vont contribuer à cette calomnie, qui finalement va devenir un préjudice pour l'autre, qu'il soit vrai ou faux ce qui est dit, mais ça va faire du tort à mon frère ou à ma sœur. Regardez dans des dictionnaires un petit peu les définitions qu'il donnait. Le mot calomnier, c'est-à-dire faire de fausses accusations qui va blesser la réputation ou l'honneur de quelqu'un. Je peux des fois dire quelque chose sur un frère ou une sœur qui finalement va être répété, et puis ça va le blesser déjà, et puis sa réputation va en pâtir, tout simplement. L'autre mot diffamé dans le dictionnaire, c'est porter atteinte à la réputation de quelqu'un en parole ou par écrit. Parce qu'on peut des fois aussi écrire des choses. Aujourd'hui avec Facebook, c'est ce qui fait de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup de gamins qui souffrent à cause de ça, mais il n'y a pas que les gamins qui font ça. Twitter, hein, on n'arrête pas de... Trump, des fois, il s'amuse bien. Hein. Et on peut faire du mal. Mais cette calomnie existe aussi entre frères. C'est pour ça que Jacques est en train de la révéler et de le dire à l'Église. Nietzsche disait quelque chose, c'est un philosophe qui n'est pas très positif, on va dire, et qui est contre Dieu, mais il disait quelque chose d'intéressant. La calomnie. Si l'on trouve la trace d'une suspicion vraiment infamante, il ne faut jamais en chercher la source chez ses ennemis loyaux et simples. Car si ceux-ci inventaient sur notre compte une pareille chose, étant nos ennemis, ils ne trouveraient pas créance. Mais ceux à qui nous avons été le plus utiles pendant un certain temps et qui, pour une raison quelconque, peuvent être secrètement certains ne plus rien obtenir de nous, ceux-là sont capables de mettre une infamie en circulation. Ils trouvent créance, d'une part, parce que l'on admet qu'ils n'inventeraient rien qui pourrait leur nuire personnellement, d'autre part, puisqu'ils ont appris à nous connaître de plus près. Pour se consoler, celui qui est ainsi calomnié peut se dire « Les calomnies sont des maladies des autres qui éclatent sur ton propre corps. Elles démontrent que la société est un seul organisme moral, de sorte que tu peux entreprendre sur toi la cure qui profitera aux autres. » C'est un peu philosophique, je suis désolé, mais l'idée générale, c'est de se dire que ceux qui nous calomnient le plus, c'est souvent nos proches. Et il dit que, bon, si ça vient de quelqu'un d'extérieur, qu'on s'en fiche un petit peu, il peut toujours parler sur nous, mais quand ça vient des proches, c'est là où ça peut être le plus blessant et le plus douloureux. Et une fois que la calomnie est lancée, eh bien, c'est difficile de la rattraper, c'est difficile de la soigner, Quelqu'un écrivait, la calomnie est comme la guêpe qui vous importune et contre laquelle il ne faut faire aucun mouvement à moins qu'on ne soit sûr de la tuer, sans quoi elle revient à la charge plus furieuse que jamais. J'ai déjà été attaqué par une guêpe. J'imaginais ce que c'est. Si on peut la tuer, c'est bon. Mais généralement, quand la calomnie elle, est lancée, c'est difficile de la tuer, de l'arrêter. Donc le mieux, c'est de ne pas en répandre. Il y a un certain Alcibiade, qui était un homme d'État, orateur et général athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui avait une méthode par rapport à la calomnie. Il dit, il avait un chien beau et grand à merveille qui lui avait coûté 700 écus. Il lui coupa la queue, qui était la plus belle partie qu'il eut. J'espère qu'il n'y a personne de SPR. Hein. De quoi ses familiers le tancèrent fort, disant qu'il avait donné à parler à tout le monde et que chacun le blâmait fort d'avoir ainsi diffamé un si beau chien. Il ne s'en fit que rire et leur dit « C'est tout ce que je demande, car je veux que les Athéniens aient caquetant de cela afin qu'ils ne disent rien de pis de moi. » C'est un peu du vieux français. En fait, il a fait exprès de couper cette queue du chien pour que les Athéniens aient quelque chose à dire et comme ça, ils n'allaient pas le calomnier lui. Ils étaient occupés à dire des bêtises, en fait, tout simplement. Bon, ne faites pas ça à vos chiens, c'est pas vraiment très sage, n'est-ce pas? Mais bon, c'était une méthode, c'était rigolo, je trouvais. Quand on s'intéresse aux caractéristiques de la calomnie, on peut chercher les mobiles. Et là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais j'en ai quelques-uns, comme la méchanceté. Par exemple, je veux rendre coup pour coup à celui qui m'a fait du mal, et je veux le faire en parole. Et ça, on sait le faire, très bien. La jalousie peut-être aussi, je suis jaloux de quelqu'un qui a un ministère, qui a un don, qui a une famille, qui a un conjoint, un travail, je ne sais pas quoi, et puis on va commencer à parler contre eux pour que justement ça leur fasse du tort. La vengeance, tellement facile, hein. Les calomnies sont souvent le fruit de vengeance, c'est tellement agréable, hein. Plutôt que d'aller pardonner, d'aller voir la personne peut-être et de se pardonner, le pardon c'est tellement difficile à pratiquer par rapport à la calomnie qui est facile à lancer et qui fait beaucoup de mal. Le désir de pouvoir aussi peut-être. En calomniant, on va s'attirer vers nous l'autorité qu'on voudrait tellement avoir en nuisant à l'autorité des autres, tout simplement. Quelle tristesse. Finalement, l'objectif de la calomnie, c'est de diffamer. C'est toujours de faire du mal à l'autre, de le nuire, tout simplement, de lui nuire, à son prochain. Donc dès que je commence à parler mal de quelqu'un, mon but, c'est de lui faire du mal. Et on parle souvent mal des autres. On ne s'en rend pas compte, mais on le fait. Tous. Moi aussi, hélas. Mais on se reprend, heureusement. Mais il faut en avoir conscience. La forme et le contenu de la calomnie, c'est le mensonge, bien souvent. On exagère des faits. Hein, souvent, quand on raconte une histoire, quand on était jeune, généralement, c'est un petit peu plus exagéré. J'étais le héros dans l'histoire. J'ai fait beaucoup plus que ce que j'avais fait à l'époque. Mais on aime bien exagérer. Mais la calomnie aussi exagère des fois des faits. Hein. T'as vu comme elle était habillée dimanche, ou comme il était habillé. Et puis, on exagère tout. Et puis après, ça part complètement en vrille. Parfois, c'est basé sur des suppositions. Et j'ai entendu dire que lui faisait ça. Mais je me dis pas, à un moment, en m'arrêtant, en me disant, bon, attends, je suis en train de lancer un truc, je suis même pas sûr que ça soit vrai. Et même si c'était vrai, j'ai pas à le faire de toute façon. Mais calomnier sur des suppositions, sans fondement, c'est triste. Et puis des fois, il y a les intrigues, hein, dans les bruits de couloir, là, on va commencer à parler du pasteur. T'as fait combien ? J'ai eu ça déjà, donc je sais de quoi on parle. Mais quelle tristesse tout ça. Puis il y a la moquerie aussi. Alors des fois on ironise, on ne veut pas faire forcément du mal, mais en ironisant sur quelqu'un, ou en se moquant peut-être par exemple des défauts des uns et des autres, de sa culture peut-être même, parce qu'il y en a qui le font, de sa race, je suis désolé de le dire. On ne le fait pas vraiment méchamment, mais quelque part si la personne nous entendait, il rigolerait beaucoup moins à mon avis. Et des fois ça se propage, hélas. Les vérités insouciantes, hein, parfois on nous donne un petit secret, on nous confie un petit secret, mais bon, allez, on va en parler à l'autre qui, de toute façon, va garder le secret, mais lui aussi, à quelqu'un qui va parler. Puis finalement, le secret, ben, il n'y a plus de secret. Ou des paroles, des fois, qu'on dit comme cela un peu vite en l'air et qui finalement vont se propager et qui vont faire du tort. Et la calomnie a des conséquences. Elle laisse des traces douloureuses. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ouragan, je n'ai jamais vécu ça, mais après, vous voyez bien à la télé ce que ça donne. La calomnie, ça fait exactement la même chose. Ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est pas toujours évident de réparer toutes ces choses-là. C'est des blessures qui sont des fois longues à cicatriser. J'ai quelques citations là. Un certain Francis Bacon, qui est philosophe au XVIe siècle, disait « Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. » Il y a toujours un reste. Un autre, un Boist, qui disait « Les blessures de la calomnie se ferment ami, la cicatrisation reste. Hein, il y a toujours la cicatrice quelque part. Et puis un autre, Charles Defreny, qui était, j'arrive plus à me relire, un dramaturge et journaliste du XVIIIe siècle, il disait « On devrait punir plus rigoureusement la médisance que le larcin. Elle fait plus de tort à la société civile et il est plus difficile de se garder d'un médisant que d'un voleur. » Le voleur, vous pouvez l'arrêter. Le médisant, qu'est-ce que vous voulez faire? Il va continuer à faire du mal à droite et à gauche. Donc c'est des blessures qui sont là et qui sont des fois difficiles et longues à guérir. Bon, après, si on a été blessé, il faut aussi apprendre à pardonner. Hein. Ça, c'est l'autre partie, on va dire. Parce que c'est facile de se dire, ah, j'étais blessé, donc je vais rester comme ça toute ma vie. Et puis, hein, comme ça, on me plaint, comme ça, on est gentil avec moi. Il y en a qui aiment bien être comme ça. Ça, c'est pas l'idée. Mais ce que veut dire Jacques, là, c'est pratiquer la calomnie entre frères, c'est oublier beaucoup de choses. D'abord qu'on est tous rachetés par Jésus-Christ et qu'on était pécheurs. Donc forcément, on a des défauts, on a un tas de péchés qui sont là, c'est pas la peine de les remettre en avant et de les distribuer à droite et à gauche. On a tous été pardonnés à Golgotha de la même manière. Et si on devait, si Jésus devait montrer tous nos péchés à chacun, on serait pas bien fiers, à mon avis. Hein. On ferait pas les malins. Et si il voulait les propager, vous lui diriez quoi ? Ma réputation, attention, ma réputation. Par contre, ceux des autres, vas-y, ça me pose pas de problème. On est triste, hein, des fois. Se souvenir aussi qu'on a le même Seigneur que mon frère, ma sœur, on a le même Seigneur que moi. Et là, ce qui est curieux, c'est qu'on le sait, mais on n'a pas peur de le faire. Pourtant, on devrait craindre de calomnier, puisque la parole l'interdit de le faire. Et si je sais qu'il a le même Seigneur que moi, ça veut dire qu'il entend ce que je suis en train de dire et qu'il va aussi peut-être un jour venger cette personne, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Je devrais plutôt avoir peur avant de dire quelque chose de mal sur quelqu'un, parce que Jésus, lui, il entend. Se souvenir aussi qu'on fait tous partie du corps de Christ, on est toute la même famille, vous êtes ma famille, c'est formidable, non ? On ne se connaissait pas il y a longtemps, mais maintenant on commence à apprendre à se découvrir. Mais pourquoi on se fait du mal comme ça, à se calomnier, à dire des choses mal sur le frère, la sœur ? C'est complètement débile quand on y réfléchit. On devrait plutôt se dire des bonnes choses. Après, on va voir que des fois, il faut reprendre. Ça, c'est autre chose. Mais se faire du mal comme ça, dans une famille, c'est vraiment triste. Je sais que beaucoup de familles sont déchirées à cause de ça, justement. Je parle dans le monde. Hein. Et se souvenir aussi qu'un jour, on va se retrouver devant le tribunal de Christ. Et tous les bruits de couloir, tout ce qu'on aura dit à droite et à gauche, d'une manière peut-être insensée ou volontaire... Eh bien, tout ça, ça va émerger si ça n'a pas été pardonné. Vous imaginez tout ce qu'il va y avoir ? Moi, ça me fait peur. Ça devrait me calmer dans mes blablas de tous les jours, parce que Jésus sait tout, note tout, et sait très bien ce qu'on a fait. On est loin du tribunal de Christ, hein. On est loin, mais vous pouvez mourir demain et c'est réglé demain. C'est ça le problème. Donc ça devrait nous faire réfléchir, de nous souvenir qu'on fait partie de cette famille, que... Oui, on n'est pas parfaits les uns les autres. On a toujours quelque chose à dire du voisin, c'est sûr, surtout du pasteur, ça c'est clair. Allez-y, vous gênez pas, moi ça, je m'en fiche depuis le temps. Mais voilà, c'est pas ça l'idée. On a des défauts, tout le monde a des défauts. L'idée, c'est pas de les mettre en valeur. L'idée, c'est plutôt de s'aider les uns les autres à changer ces défauts. C'est ce que veut le Seigneur, plutôt. Toutes nos paroles sont entendues par Dieu. Toutes les paroles sont entendues par Dieu, mais elles devraient parler d'amour vis-à-vis de l'autre. D'amour et pas de calomnier. Deuxième chose qu'on voit dans ce texte, hein, il n'y a que deux versets, mais il y a beaucoup de choses à dire, la nature réelle de la calomnie. Hein, il dit « Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge même la loi. » Expliquez ce qu'il veut dire là. D'abord, la calomnie est une forme pernicieuse de jugement. Quand je calomnie quelqu'un, je suis en train de le juger, clairement. Le mot « juger », ça veut dire, en grec, « plaider », juger, discerner, condamner et faire justice à l'égard de quelqu'un. Quand je calomnie, je juge et je fais justice à l'égard de quelqu'un. Hein, ça, je ne sais pas si on l'a vraiment réalisé. C'est trancher un différent en qualité de juge. Hein, je me mets au-dessus des autres et je tranche. Je dis celui-là, il n'est pas beau, c'est réglé, sentence, allez, au prochain. Et j'énonce une opinion ou une sentence, on pourrait presque dire, quand je commence à juger quelqu'un. Finalement, c'est estimer... apprécier la valeur de quelqu'un. Quand je calomnie quelqu'un, je dis celui-là, il n'a aucune valeur. C'est grave quand on y réfléchit. C'est très grave, en fait. Surtout devant Dieu, parce qu'on a tous de la valeur devant lui. Mais nous, on est capable d'être juge, plus juge que Dieu, des fois, pour calomnier les autres. Quand on regarde dans toute la Bible, hein, le verbe juger était employé uniquement pour les juges, c'est-à-dire les magistrats, hein, de la justice, et pour Dieu, pour personne d'autre. y en a qui ont autorité pour juger, on en parlera, et il y a Dieu qui était là pour juger, mais personne d'autre était appelé à juger. Donc la fonction de juge, hein, c'est quelqu'un qui se prononce sur la culpabilité ou l'innocence d'un accusé. Quand je calomnie, c'est comme s'il venait dans le tribunal et « Ok, Charles, tu es coupable ou tu es innocent ?» Bon, généralement, tu es plus coupable hein, quand on calomnie que l'innocent. C'est rare qu'on innocente quelqu'un. Mais là, je me fais juge tout simplement devant lui. Juger un frère, c'est le déclarer coupable. Non seulement c'est le déclarer coupable de quelque chose, mais c'est en plus prononcer une sentence sur lui quelque part. C'est pas direct. Mais quand je dis que celui-là, il n'est pas bien, il n'est pas gentil, il est méchant, t'as vu tout ce qu'il a fait, je déclare une sentence. Et si, en plus, ça se propage, la sentence, ça sera ben, d'être moqué, d'être jugé par les autres, tout simplement. Et c'est bien triste. La calomnie, nous dit Jacques, juge son frère. C'est-à-dire que je deviens le juge de mon frère à moi. Et on l'a dit, il prononce, enfin, cette calomnie va prononcer une sentence, elle va accuser une personne. Et on accuse souvent plus qu'on innocente quelqu'un. C'est dommage parce que des fois, il faudrait peut-être aller voir la personne pour poser la question « Pourquoi tu réagis comme ça ? Pourquoi tu es vêtu comme ça ?» Enfin bon, il y a plein de choses hein, où on calomnie. Plutôt que tout de suite déclarer « Tu es coupable. » Vous imaginez si Dieu faisait comme ça avec nous ? On serait où ? Tous les jours on pêche. Si chaque fois, il nous tranchait la gorge, on n'irait pas loin. Elle condamne aussi cette calomnie. Mais elle condamne sur son propre témoignage, alors que la Bible dit qu'il faut 2 ou 3 témoins, normalement, pour condamner quelqu'un. Mais quand je calomnie, c'est mon seul, unique témoignage. Je suis la vérité. Donc j'ai raison dans ce que je dis. C'est grave. Finalement, je vais contre la loi aussi, là, quelque part, parce que Dieu nous demande qu'il faut 2 ou 3 témoins minimum pour condamner quelqu'un. Donc j'ai complètement tort en faisant cela. Elle va cataloguer aussi les gens. Mais on aime bien cataloguer les gens, hein, t'as vu celui-là, il est dans cette partie du catalogue, l'autre il est dans cette partie, mais on n'a même pas pris le temps de leur parler une fois. On ne sait pas. Une fois, on est tellement capable de juger les gens par l'apparence ou par la vue, mais on ne connaît ni le cœur, on ne connaît ni les circonstances de tel ou tel, pourquoi elle a agi, pourquoi elle fait ça, etc. Par contre, si on savait, peut-être que des fois on ferait oh, « Ah oui, d'accord, il est habillé comme ça, mais peut-être qu'il est pauvre en ce moment et qu'il est dans une situation difficile. » Mais on aime plutôt cataloguer, hein, c'est plus rapide, c'est plus facile que de discuter avec la personne. C'est plus simple. Elle va emprisonner aussi cette calomnie, parce que quand on commence à calomnier quelqu'un, l'idée du pardon après, ça devient plutôt quelque chose de flou. De toute façon, on a raison. Quand je calomnie, c'est que j'ai raison. Je n'ai pas besoin de demander pardon à quelqu'un, puisque j'ai raison. Hein. Et puis elle est irrévocable, bien souvent, parce qu'une fois que le jugement est prononcé dans un tribunal, eh bien, la sentence doit être appliquée, tout simplement. Et c'est la même chose quand on calomnie quelqu'un. Eh bien, généralement, c'est difficile de revenir en arrière. On le peut, parce que en tant que calomnié, je suis aussi censé pardonner si la personne vient vers moi. Et même, je dirais, il faut apprendre aussi à pardonner. Et puis tant pis ce que les autres pensent sur moi. Moi, le seul qui a le droit de regarder ce que je fais, c'est Dieu, quelque part. Vous avez le droit aussi de regarder ce que je fais, on est bien d'accord. Mais c'est ça qui me fait le plus peur, on va dire, après la pensée des autres. Hein. T'as vu la cravate qu'il a mis aujourd'hui, qu'il est pas beau, il a dit ça, etc. Il y a longtemps que ça passe au-dessus, parce que ça sert à rien. Mais des fois, ça peut faire mal, quand même. Donc la calomnie, c'est pas vraiment de l'amour, on pourrait dire, quelque part. La calomnie parle mal, il dit, et juge la loi. Alors de quelle loi il est en train de parler là, Jacques ? Ben tout simplement de la loi royale. L'amour qu'on est censé avoir les uns avec les autres. Calomnier, c'est se mettre juge, c'est remettre en question tout simplement l'amour pour le prochain. Je me place en juge et je remets en question l'amour que je dois avoir pour le prochain, tout simplement. Et ça, c'est se placer au-dessus de Dieu. Parce que c'est lui qui a donné la loi royale. Et si moi je la remets en question, je me place tout simplement au-dessus de Dieu. Je redéfinis ce qu'est l'amour comme Dieu le voudrait, en fait. Cet amour qu'il voudrait entre nous. Si je calomnie, je dis non à l'amour de Dieu, ou je redéfinis l'amour de Dieu, mais là, je vais contre lui aussi. Je ne sais pas si on y réfléchit quand on calomnie quelqu'un, ou quand on parle mal de quelqu'un. Je me mets au-dessus de Dieu. C'est terrible quand on y réfléchit. C'est profond ce qu'il dit Jacques, hein, en 2 versets seulement. Puis, cette calomnie parle mal de la loi. C'est le même verbe qui est employé quand il dit « ne dites pas du mal des frères ». Là, il dit « ne dites pas du mal de la loi ». C'est le même verbe en grec, en fait. Ne calomnie pas la loi, tout simplement, c'est ce qu'il veut dire. Ne parle pas mal de la loi parce que tu parles mal, en fait, de son auteur. Si je parle mal de la loi de l'amour, je parle mal de Dieu, tout simplement, et de celui qui l'a conçu, qui l'a voulu ainsi. Je remets tout en question. Et là, je me pose complètement contre Dieu. Quelqu'un écrivait, en parlant de juger la loi, il disait « c'est juger Dieu ». Juger de manière calomnatrice revient par ailleurs à parler contre la loi et à la juger. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. Illustrons ceci. Et ça, ça va vous parler, parce qu'avec les 80 km/h qui viennent de passer là. Imaginez avoir pour opinion que la vitesse appropriée de conduite sur autoroute est de 200 km/h et que vous déterminez de conduire ainsi. Vous ne vous contentez pas de dire que ceux qui ont décidé de la limite de vitesse actuelle sont moins sages et informés que vous, mais vous vous placez en juge de la loi. En effet, celle-ci stipule que vous ne devez pas conduire au-dessus de 130 km/h, ou la vitesse admise dans le pays. C'est aussi simple que cela. La loi fonctionne ainsi. Soit vous vous y soumettez, soit vous vous placez au-dessus d'elle, tout simplement. On est ainsi avec la loi de Dieu. Si vous ne l'observez pas, vous déclarez qu'elle n'est pas faite pour vous, que vous êtes au-dessus d'elle et que vous n'allez pas la laisser se mêler de votre vie quand vous la rencontrez. Alors, je ne suis pas trop fan des 80 km/h, mais bon, on va apprendre à respecter l'autorité, on est bien d'accord, mais à partir du moment que je vais contre la loi, je me place au-dessus de la loi, je me fais juge, et par rapport à l'amour, qui est quand même un des 10 commandements, quelque part, je remets tout simplement en question un de ces commandements de Dieu. Qui, je dis, quelque part, bah, c'est pas au top, c'est pas suffisant, on va dire, parce que moi, j'ai envie de dire du mal de mon prochain. En somme, il faudrait jamais, jamais dire du mal de personne. C'est un commandement, en fait, quelque part. Ou alors, je me prends pour Dieu, tout simplement. J'érige ma nouvelle loi. Parler mal de la loi, c'est s'autoproclamer juge, parce que les juges sont généralement nommés, mais nous, on s'autoproclame. Dieu nommait aussi les juges, et il nomme les autorités aussi, d'une certaine manière, on dit Romain 13. Mais quelque part, c'est moi qui m'autoproclame. C'est croire avoir la faculté d'ériger des lois. On s'abuse soi-même, en fait, quand on fait ça. Je me crois capable de juger d'une situation ou d'une personne. Et surtout, ben, je remets tout l'amour en question. Finalement, c'est croire que l'on possède la sagesse d'un juge et celle de Dieu pour pouvoir diffamer quelqu'un. C'est grave quand on y réfléchit. C'est vite fait une calomnie, c'est vite dit de faire du mal à quelqu'un. Mais quand on réfléchit à ce qu'on est en train de faire à ce moment-là, ça calme, franchement, par rapport à ce que dit la parole de Dieu en tout cas. Jacques dit « Un seul est législateur et juge, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a qu'un seul qui est juge, c'est Dieu. Dieu peut soit sauver une personne en l'innocentant, c'est ce qu'il a fait pour les chrétiens, ceux qui l'ont accepté, soit il va condamner. » Et moi, qui suis-je pour aller voir Dieu à la fin et lui dire « Pourquoi tu condamnes ?» J'ai rien à lui dire. Dieu fait ce qu'il veut et il fera de façon juste. Là, on n'a pas à s'inquiéter pour cela. C'est Dieu aussi qui donne l'autorité du gouvernement. Dans Romains 13, 4, il est dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Pas toujours d'accord avec nos autorités, mais on est censé les respecter quand même, tant qu'ils ne vont pas contre Dieu, tout simplement. Mais si moi je calomnie, je me mets aussi en tant que juge là, et au-dessus des autorités, comme on a vu tout à l'heure avec la vitesse, mais aussi au-dessus de Dieu, quelque part. Mais c'est eux qui sont là pour juger, c'est pas à moi de le faire. Si juger le frère, c'est se prendre pour Dieu, et c'est dérober tout simplement le rôle de Dieu. Parce que si quelqu'un fait mal dans l'Église, au lieu de transmettre l'information par la calomnie. Pourquoi ne pas prier pour lui? Pourquoi ne pas aller le voir et discuter tranquillement, plutôt que lancer des bruits de couloir, on va dire? Il y a tellement d'autres choses à faire que de parler mal. Ah oui, ça coûte rien de parler mal. C'est plus difficile d'aller voir la personne et de discuter avec cette personne-là. C'est triste. Mais voilà ce que c'est que de dire du mal des autres. C'est de prendre pour au-dessus de Dieu, de croire être tellement sage, d'être capable de jeter une sentence sur une personne. Calomnier, c'est se faire juge, être au-dessus des lois et de Dieu, et être prêt à condamner sans aucun sentiment, bien souvent. C'est bien triste d'être comme ça. Pourtant, comme j'ai mis mon troisième point, il y a juger et juger. Eh oui. Il dit, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Des mauvais jugements, et il y a des bons jugements. Je veux dire, c'est bizarre, c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Les mauvais jugements sont souvent basés sur des préjugés. On va juger quelqu'un, on va calomnier quelqu'un sur des mensonges, sur des suppositions, des ouï-dire. Enfin, il y a mille et une façons d'aller prendre de la matière pour aller calomnier quelqu'un. On sait très bien comment faire. C'est souvent une délectation aussi que de juger son frère. Parce que quand je le fais, je me dis moi aussi, qu'est-ce que je suis un bon chrétien. Regarde ce frère qui est mauvais là. Il n'est pas un bon chrétien. Mais je m'oppose là et je dis, moi, je suis un bon chrétien. Je suis capable de juger cette personne-là. Hein? Ça se fait tellement naturellement de juger quelqu'un. Ce qui est curieux, c'est que rarement, on va avoir la même sentence pour nous. C'est curieux. Hein? On est capable de trancher sur quelqu'un très vite. Mais est-ce que je fais ça pour moi? Jamais. Rarement. Très rarement. Faites pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse pour vous. Tout simplement, nous dit la Bible. Mais c'est facile de juger les autres. Et là, j'ai une petite histoire. Hein. J'ai lu l'histoire d'un pasteur qui avait été absent de la ville pendant une semaine. Durant son absence, une tornade avait balayé la petite ville. Un homme de son église le rencontra à l'entrée de la ville et l'homme lui dit « S'il vous plaît, pasteur, priez pour moi. Cette tornade a détruit ma maison. Tout ce qui me reste, ce sont les vêtements que j'ai sur le dos. » Le pasteur profita de la tragédie pour dire certaines vérités à cet homme. Le pasteur lui dit « Cela ne m'étonne pas à cause de ton péché, de désobéissance qu'il y a dans votre vie. Je ne suis pas surpris que votre maison ait été détruite. Je crois que Dieu vous a puni. J'espère que vous prendrez cela comme un avertissement de Dieu. » L'homme lui répondit « Certainement, pasteur. Et soit dit en passant, je voulais vous dire aussi que votre maison a été détruite aussi. » Eh oui, alors c'est pas que les pasteurs, hein, qui... enfin, je n'oserais jamais dire ça à quelqu'un qui est dans la misère comme ça, mais quelque part, on aime bien juger les autres, mais si on avait la sentence de Dieu derrière, ben, on aurait à rougir. Hein. Mais ce genre de jugement mauvais, ça n'a pas d'égard par rapport à la parole de Dieu, ce n'est jamais dans le but d'aimer le prochain. Ça n'a aucun but d'amour, et pourtant, toutes nos paroles devraient être empreintes d'amour. Chrétien qui juge ainsi destitue, on l'a dit, Dieu de sa fonction. Et finalement, quand je calomnie, je pêche clairement et gravement, j'ai envie de dire, parce que ça fait du mal. Les bons jugements, la Bible nous en parle. Les croyants sont appelés à juger le péché des frères. Attendez, je ne comprends plus là. Il y a une grande différence et on va voir qui aussi est appelé à faire ça. Dans 1 Corinthiens 5, 11 à 12, il est dit « Maintenant, ce que je vous ai écrit, dit Paul, ce n'est pas d'avoir des relations avec quelqu'un qui, selon mon frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Donc, d'une part, nous n'avons pas à juger d'une façon mal, mais il y a des moments où on va s'écarter, c'est un jugement, mais c'est un bon jugement, parce que je ne veux pas me mêler à quelqu'un qui se dit, par exemple, être un chrétien qui finalement vit comme le monde, je ne vais pas agréer ce qu'il est en train de faire là. Hein. Donc, on est appelé à juger dans ce domaine-là. Si quelqu'un vit complètement dans le péché, je ne vais pas faire comme lui, je ne vais pas l'approuver quelque part. Peut-être que cette personne-là, j'irai la voir et lui parler gentiment en disant, écoute, ce que tu fais, ça ne correspond pas à ce que demande la parole de Dieu. Mais là, je juge. Mais là, je ne juge pas comme dans le but de faire du mal. Je juge dans le but de ramener peut-être la personne ou moi de me protéger quelque part. Ça, c'est un bon jugement. Dans Timothée 5, 20 à 24, il est dit qu'il faut reprendre les anciens qui fautent devant tous. Hein, si un jour je pêche, il faut que je sois repris devant tout le monde, tout simplement. Ce n'est pas pour humilier, mais enfin, si, il y a quand même une forme d'humiliation, mais... Voilà, il est jugé par l'Église, on restaure et on repart de plus belle. Généralement, c'est l'inverse, on fout dehors. Évidemment, le pasteur, il doit être parfait. Tous les péchés se voient, hein, pas tout de suite forcément. Donc c'est facile des fois de se sentir au-dessus des autres ou de se dire, cette personne, ah, quel bon chrétien, mais si vous saviez tout. Dieu sait, heureusement, mais on ne connaît pas tous les péchés. Et des fois, les choses se révèlent avec le temps aussi. Et puis dans Galates 2, 11 à 14, c'est Paul qui dit « Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Pour un juif, c'était interdit de manger avec les païens. Mais lui était allé là. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Les circoncis, c'est les juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, Paul dit à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi es-tu hypocrite? Reste avec les païens, il n'y a aucun problème. Si tu veux manger avec eux, mange. Dieu n'interdit pas de le faire, mais ne sois pas hypocrite ensuite. » Et là, Paul le reprend, sévèrement même. Hein, et, bon, c'était pas n'importe qui Pierre non plus, mais Voilà, dans certains domaines, peut-être de la vie chrétienne, parfois il faut reprendre la personne qui est en train de faire mal, tout simplement. Il faut le faire avec amour. La calomnie, c'est pas la même chose. On va apporter une sentence là-dessus et le dossier est clos. Quelqu'un qui reprend comme Paul l'a fait avec Pierre, l'idée c'est de restaurer la personne, lui révéler quelque chose qu'il a mal fait pour ensuite le restaurer et l'amener à ne plus le faire. C'est pas tout à fait la même chose. Et généralement, ça se fait dans le silence, entre nous, tout simplement. Et personne n'est au courant. Il n'y a pas besoin de savoir, sauf si vraiment la personne ne veut pas écouter, évidemment. Mais personne ne saura jamais. Bon, là, on a un exemple, c'est pour nous servir, à nous, justement, d'exemple. Mais si je reprends quelqu'un, personne ne le saura jamais. Et réciproquement, j'espère. Donc, il y a des situations, en tant que frère, où on doit reprendre, en tant que sœur, reprendre quelqu'un. Mais je pense que c'est les gens qui sont spirituels, en tout cas la Bible le dit, qui vont juger ces affaires. Galates 6, 1, il est dit, « Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Pas de calomnie, un esprit de douceur. « Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Il faut faire attention, parce que si je vais reprendre quelqu'un, je peux aussi me faire prendre au piège. 1 Corinthiens 2, 15 dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Avant de reprendre quelqu'un, je pense qu'il faut une certaine maturité et de douceur. Parce que quand on n'est pas encore un bon vieux chrétien briscard, on a tendance à juger, à être choqué par ce que les gens font, et à s'effrayer et à juger justement et calomnier. Et vous savez, des fois, quand vous voyez des choses, vous avez quoi, vous arrachez les cheveux. Mais bon. Mais quand on est mature, on ne regarde plus les choses de la même manière. D'abord parce qu'on regarde en arrière sur nous-mêmes. Avant que j'aille juger le frère, là, souviens-toi de tout ce que toi, tu as fait. Tout ce que tu as fait et tout ce que Dieu t'a pardonné. Et des fois, c'était grave aussi. Et toi, tu voudrais juger d'un seul coup la personne en face? Regarde comment Dieu a fait avec toi. Et là, on s'approche tout doucement, enfin différemment de cette personne qu'on veut reprendre. Ça, c'est la maturité, c'est l'expérience. Et avant de reprendre quelqu'un, il faut vraiment se poser la question si j'ai l'expérience. Vous savez, si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez en discuter avec quelqu'un d'autre, que vous ne sentez plus apte à le faire, plutôt que d'y aller vous-même. Après, il faut aussi supporter ce que l'autre va dire en face. Il faut porter des fois des choses. Donc il y a des frères qui sont plus mûrs, qui sont capables de juger, hein, parce qu'ils vont venir non seulement avec la parole de Dieu, le but c'est de leur enseigner ce que Dieu dit par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils vont venir avec tout l'amour que Dieu a, pas avec leurs sentiments, parce que quand vous êtes dans une situation des fois, ben, c'est que les sentiments qui parlent, ça il faut les chasser ou les transformer on pourrait dire, pour qu'ils deviennent de l'amour selon Dieu. Et quelle que soit la situation ou la difficulté, quand on vient comme cela, il n'y a rien d'effrayant devant Dieu. Vous croyez qu'il y a un péché qui effraie Dieu? Aucun. Aucun. Ça ne veut pas dire qu'il la crédite, on est bien d'accord, mais il ne sera jamais choqué par un meurtrier, etc., qui demande pardon. Il accepte de pardonner, tout simplement. C'est la même chose. Il faut que je sois capable d'approcher une personne en me disant que je ne vais pas être choqué. Oh, ça laisse des fois des traces, on est bien d'accord, mais avec l'expérience, on arrive à enlever ces choses-là. Mais pas de sentiment, mais l'amour de Jésus-Christ. Et là, on va juger quelque part, mais aussi peut-être sur le témoignage de deux ou trois personnes. Si quelqu'un me dit « Ah, t'as vu ce qu'il fait là ?» Je ne vais pas aller voir la personne directement. On va attendre un peu. Après, peut-être, en priant, ben, le Seigneur va peut-être me démontrer, ça m'est déjà arrivé, deux ou trois personnes qui me disent la même chose. Dans ce cas-là, oui, je vais aller voir la personne. Peut-être avec un frère ou tout seul, on verra bien. Mais ce n'est pas parce qu'on me dit quelque chose sur quelqu'un que tout de suite, sentence, mort. Ce serait plus simple, ça irait plus vite, parce qu'il faut des fois patienter, il faut attendre que Dieu agisse, que Dieu révèle des choses, mais témoignage de deux ou trois personnes. Sinon, moi, je garde ça en tête, mais pas plus loin. Donc c'est bien, avant de dire quelque chose sur quelqu'un d'autre, que peut-être d'autres personnes vous le disent aussi, comme ça vous n'êtes pas le seul témoin de ces choses-là. Au moins, on ne se sentira pas trop sage, et on va être humble dans ce cas-là. Mais voilà, il y aura des moments où des frères mûrs vont devoir reprendre certaines personnes, c'est pas que le pasteur, je pense qu'il y a d'autres qui sont capables de le faire, pour simplement amener la personne à comprendre qu'elle agit mal, tout simplement. Le but, c'est pas de répandre le mal qu'elle a fait, le but, c'est de soigner le mal qu'elle a fait. L'objectif du bon jugement, c'est d'ôter le péché pour conduire la personne à la repentance. Ça se fait pas toujours tout de suite, il faut du temps, parfois, mais c'est l'objectif, que cette personne se repente, et surtout qu'après, elle puisse être restaurée pour réintégrer l'Église, si elle est partie, par exemple, ou être réintégrée elle-même, par rapport à ce qu'elle fait. Donc, dans le jugement, le bon jugement, le but, c'est l'amour, c'est de restaurer la personne, pas de la calomnier, de la descendre et de la massacrer. Ça a quand même un autre but, on est bien d'accord. C'est pas la même chose. Et donc si je vois un défaut chez un frère, on bloque ce qui est naturel chez nous à dire « Oh, non. Je vais essayer de l'aimer. Si j'ai vu peut-être quelque chose de mal, ben je vais peut-être pouvoir prier pour cette personne-là. » Après, si vraiment la personne persiste, pourquoi pas aller la voir, mais avec tous ces sentiments qu'on vient de voir, ou aller en parler à quelqu'un, et peut-être attendre que d'autres le disent aussi. Tout doucement, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Et vous savez, si on faisait comme cela dans l'Église, beaucoup de problèmes se régleraient. Les gens ne partiraient peut-être pas. Il y aurait d'autres moins de situations difficiles. Il faut beaucoup d'amour et de patience pour reprendre un frère selon Dieu. Comme Dieu prend son temps avec chacun d'entre nous. Dieu ne vient pas tous les soirs avec la liste de Emmanuel, tu as fait ça. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Il vient tout doucement, par le Saint-Esprit, et il essaie de me convaincre, tout doucement, jusqu'au moment où moi j'ai cette conviction et que j'accepte et que je pleure devant le Seigneur. Mais il ne vient pas comme un juge. Il va venir un jour comme un juge, là, ça rigolera moins. Mais en attendant, il vient tout doucement, avec beaucoup d'amour, vers chacun d'entre nous pour nous reprendre et changer nos péchés. Et on en a encore tous. On a encore toute une vie à changer un tas de choses. Et on va même s'inventer des nouveaux péchés dans quelques temps. On ne s'arrêtera jamais. Donc, si je sais que je suis comme ça, pourquoi moi je vais aller juger les autres ? Je vais me juger moi d'abord. Je vais calomnier sur moi-même. Ça serait marrant, ça. Mais ça, on ne le fait pas parce qu'on s'aime tellement qu'on ne doit pas se faire du mal. Donc, jugeons le prochain comme si on se jugeait soi-même. Ah ouais, ça, c'est intéressant. Est-ce que je dirais la même chose sur moi-même ? Par rapport à ce que je suis en train de dire de l'autre, et jugeant comme Dieu me jugerait. Et là, la calomnie est impossible dans ce domaine-là. Pour terminer, la calomnie, on l'a dit, a des desseins négatifs tout le temps. Si vous dites du mal de quelqu'un, votre but, c'est de faire du mal, rien d'autre. Il ne faut pas essayer de s'excuser à droite, à gauche. Elle ne va jamais provoquer l'amour, elle ne va jamais provoquer la paix, la calomnie. Impossible. Ou alors, vous êtes tordu. Parce que moi, je ne sais pas comment on y arriverait. Puisqu'on dit du mal. La calomnie destitue Dieu, à mon avis, c'est ce que dit Jacques par rapport à cette loi que nous, on veut remettre en question l'amour. L'amour, c'est de dire du mal aussi. Ben non, la Bible n'a jamais dit ça. Donc, ce n'est pas à moi de remettre en question cette loi de l'amour. La calomnie est un outil que le diable a imaginé. Et ça, on parlait de scandale tout à l'heure aussi dans le texte que Rémi avait lu. Ne pas être un objet de scandale. Les scandales arrivent, mais il ne faut pas que ce soit moi l'objet du scandale, parce que sinon, je risque gros. Mais le diable aime le scandale. Oh là là, il peut en provoquer dans l'Église. Mais quelle délectation pour lui. Les gens s'entretuent, ça divise l'Église, c'est génial, hein, c'est super. Mais le chrétien, lui, normalement, répond par l'amour. Quoi qu'on vous dise, normalement. N'oublions pas Matthieu 7, 1 à 5, qui dit « Ne jugeons point afin que vous ne soyez point jugés. » Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est dur avec quelqu'un ? Attention, parce que Dieu sera aussi dur avec vous. Et continue. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille à ton œil ? Quel amour ! Quelle hypocrisie, oui. Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Si tu vois un défaut chez l'autre, va voir d'abord si tu n'en as pas un chez toi, change-le. Et là, ça ne va pas très vite généralement, c'est bien parce que ça va laisser une longue période pour rien dire sur l'autre. Et le jour où tu seras capable, c'est-à-dire que tu vas devenir un chrétien mature, là tu vas peut-être commencer à apprendre à aider le prochain et non pas à le casser. Apprenons à nous aimer plutôt qu'à juger. C'est tellement difficile d'apprendre à aimer. Tellement simple de juger le prochain. Mais apprenons à aimer. C'est ainsi qu'on va faire disparaître en fait les défauts des autres. Parce que si je fais que aimer mon prochain, je sais qu'il y a des défauts. Mais si je veux l'aimer, ben je ne vais plus colporter ces défauts. Au contraire, je vais garder ça dans mes sujets de prière. Mais je veux aider mon prochain. Et donc, finalement, il n'y a plus aucune calomnie, aucun défaut qui va circuler, mais que de l'amour. On sait tous qu'on a des défauts. Ce n'est pas la peine de le dire. On le sait, non ? Vous avez des défauts ? Oui, j'en suis sûr. Vous avez tous des défauts. Moi aussi, j'en ai des défauts. Donc, comme on le sait, c'est pas la peine de les colporter. Hein. On les garde au fond de nous. On peut prier les uns les autres pour ça, si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas la peine d'aller colporter ces défauts à droite et à gauche. Et comme cela, Non seulement nous, on se sentira bien, mais en plus, l'Église sera bien heureuse et Dieu sera surtout honoré. On va prier. Seigneur, pardon pour les mille et une fois où peut-être nous avons dit du mal, pas forcément consciemment, mais c'était du mal vis-à-vis de quelqu'un. Tu vois que nous avons peut-être même calomnié quelqu'un et nous voulons regretter ce matin toute cette manière d'agir qui n'est pas de l'amour, qui remet en question la loi royale, qui te remet en question, Seigneur. Et montre-nous à présent la gravité de ce péché, combien tu ne l'apprécies pas du tout, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu nous as aimés. Tu ne nous as pas condamnés, Seigneur, mais tu nous as fait grâce. Et ça, nous l'oublions bien souvent. Apprends-nous à faire grâce aussi à celui qui agit mal, peut-être, et apprends-nous à aussi devenir mature spirituellement pour pouvoir avoir suffisamment d'amour pour reprendre quelqu'un, pour l'aider à changer dans certains domaines de sa vie, faire tout simplement ce que toi tu fais avec nous-mêmes, Seigneur. Apprends-nous à nous aimer tout simplement comme toi tu le désires. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.